Train des pieds comme si j'étais une sale gosse. Je crois que je vais garder ce truc toute ma vie.
Les sorties d'albums de ce vendredi étaient bien fournies, comptant notamment à leur rayon l'énorme bible du classico organisé, duquel je n'ai encore hélas pas feuilleté une page, prisonnier de mes élans adolescents refoulés qui m'orientent plus fort que moi vers le premier album solo de Luigi Pekka, rappeur du crew Columbine, dont les poses de rockstar de scène hantent mes projections fantasmées d'artistes à succès, autant que le sourire qu'il aborde, mêlant timidité et parfait mépris de toute idée d'angoisse, me réchauffe au cœur des plus froids des trottoirs parisiens. Qu'advient-il de l'enfant terrible à l'aube de sa vie d'adulte ? Montagne Russe n'y répond pas tant dans le fond que dans la forme, produisant un mélange de chansons d'inspiration rock, variété, pop française d'un autre temps, qui pourrait sembler bien loin du rap déstructuré dont 2K16 débordait, insolent et immature. Rien ne paraît pourtant autant correspondre à la plus belle chevelure du rap français, n'en déplaise à SCH, que ses instrumentations nourries à Téléphone, Michel Berger, Gainsbourg et Biolay. Et si le toujours jeune Luigi semble encore chercher sa place dans un flou très orelsanien, et en même temps qui n'en est plus là, je sais que la mienne sera encore dans son public, curieux de voir à quel point les caméléons que nous étions peuvent contaminer le public de France Télévisions. Notre invité du soir, elle, n'en est plus à ce premier album, celui qui pose la première pierre d'un monde qui reste à construire. Sent-elle pourtant que sa musique est aujourd'hui mature ? Qu'est-ce que t'en penses, Léonie ? Est-ce que ta musique, elle est mature aujourd'hui ?
Plus qu'elle ne l'a jamais été, fatalement.
Léonie Pernet nous fait l'honneur d'être notre invitée du soir lors de cette deuxième émission de La Fraîchiste à l'occasion de la sortie de ton album Le Cirque de Consolation le 19 novembre prochain. C'est dans deux jours pour vous qui nous écoutez. Merci beaucoup Léonie d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Comment ravie. Ça va ?
Pas mal.
Très bien.
Ouais. Non, pas mal, j'ai dit.
Pas mal.
Ouais.
On reste middle.
Y a une marge de progression encore. Ouais.
Et écoute, j'espère qu'on l'atteindra ensemble. Son album, à lui, est déjà un disque d'or avant même que les premières mélodies n'aient été enregistrées. Programmateur de Radio Campus, il est avec moi pour mener cet entretien. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Erwan. Et oui, effectivement, mon album est déjà disque d'or. Comme celui d'Orelsan, d'ailleurs.
Effectivement. Sans elle, nous parlerions dans le vide. Elle est l'encre de nos lettres. En plus d'être une programmatrice émérite, elle a monté tout le setup de ce soir dans un endroit où je n'estimais pas qu'on pouvait le faire. Camille est avec nous pour compléter notre équipe et réaliser cette émission. Bonsoir Camille, de loin.
Bonsoir de loin.
Vous avez aimé la chronique de Faustine lors de notre première émission, mais pas autant que nous. C'est pour ça qu'elle nous rejoindra tout à l'heure pour nous parler de Lorde. Bonsoir Faustine.
Oh, flatteur, bonsoir.
La Fraîchiste, l'émission des programmatrices de Radio Campus Paris dédiée aux artistes que nous programmons et à la musique que nous aimons, ça commence maintenant. Léonie, bonsoir, rebonsoir.
Rebonsoir.
On le disait en introduction, tu es avec nous pour la sortie de ton deuxième album,
ouais.
Le Cirque des de Consolation.
Oui, mais c'est circulaire.
Ouais. C'est circulaire, ouais, ça ouais. Reste circulaire. J'aimerais revenir, moi, au moment où tu as fini de travailler sur Crave, qui est sorti en 2018, puisque c'est un album que tu as beaucoup exploité. Il est sorti, tu l'as produit sur scène. Ensuite, tu as remixé certains morceaux, tu en as réarrangé d'autres avec plus de cœur. Tu as beaucoup retravaillé la matière qu'en était sortie. Comment tu t'es senti au moment de devoir repartir, entre guillemets, de zéro ? Peut-être que ce n'était pas le cas, que tu avais déjà des choses amorcées en tête. Mais qu'est-ce que ça a été pour toi, ce moment où tu as dû repartir sur de nouvelles productions ?
C'est toujours un plaisir de repartir sur une nouvelle aventure, d'ouvrir un nouveau terrain. En plus, il y a deux choses. Il y a l'aspect quand les versions de luxe, les remixes, tout ça, il y a un aspect créatif et il y a un aspect marketing aussi. Donc parfois ça peut être pénible. Sur les versions acoustiques, par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir sur les versions acoustiques de Crave parce que c'est intéressant à faire.
C'est une vraie réécriture, ça, pour le coup.
Ouais, totalement. Totalement, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, sur le morceau Butterfly notamment, je ne peux plus le voir en peinture, bien évidemment. Donc voilà, repartir sur du nouveau, c'était un kiff en fait, c'est une nouvelle aventure.
Ça t'a rendu presque impatiente justement, tout ce processus que tu décris comme étant parfois un peu pénible, de devoir réitérer sur des versions de luxe, tout ça ?
Non, mais c'était... En fait, parfois il y a des injonctions qui, en fait, nous servent à créer. C'est comme des petites consignes. Je ne me suis jamais forcée à faire quelque chose.
Bien sûr.
Donc, mais partir sur un nouvel album, une nouvelle idée, globalement, bien sûr, ça régénère. Ouais.
Ça a été laquelle, justement, la première de ces nouvelles idées? Qu'est-ce qui a été un point de départ pour toi à ce moment-là?
Il me semble que c'était La mort de Pierre.
Ok, c'est mon morceau préféré du disque.
Ça me touche beaucoup.
C'est un morceau que je trouve extraordinairement beau.
Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et qu'est-ce qui t'est venu, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce morceau-là dans ton processus créatif?
Rétrospectivement, c'est toujours tellement difficile,
ouais,
d'inventer
un
une préméditation
qui
n'existe pas en réalité, parce qu'on découvre en faisant. Et c'est en faisant un pas de côté qu'on se dit « Ah, ça a commencé comme ça, mais je bâtis pas un plan qu'ensuite je construis. » Et j'essaie de suivre mon instinct, mes intuitions, et je fais. Y a le truc du français quand même, si, le truc du chant en français et
ça,
du texte.
C'est quelque chose dont on va parler forcément, parce
bien
que
sûr,
c'est une des grandes, choses que ton album porte, c'est
ouais,
justement cette langue française. Simon, peut-être que tu veux qu'on en parle maintenant.
Oui, non, mais effectivement, ouais, c'est une... quand on regarde les deux albums, c'est vrai qu'il y a une présence de la voix, une présence du texte, du français, qui est beaucoup plus mise en avant, comme si c'était finalement quelque chose qui avait été plus assumé que dans le premier album.
Mm-hmm.
Bon, y a plein de questions, moi, qui me viennent sur cette articulation français-anglais.
Mm-hmm.
Comment on choisit quel morceau? Et j'imagine évidemment que ça se fait peut-être naturellement, inconsciemment. Je sais pas comment tu le...
Missing Love, je me suis demandé jusqu'à la dernière minute si j'allais le passer en français, par exemple. Ouais.
Et
pour,
qui t'a
pour quelle
décidé,
raison,
justement,
ouais.
Il y a des mots
parce que ça
plus...
m'évoquait du coup du pop rock, je sais pas comment dire.
Ouais.
Lui, je boudais un peu avec lui à la fin. Ça doit être le dernier que j'ai terminé. Je sais pas. Je me posais la question de ne pas continuer dans cette ligne directrice d'une adresse très franche comme ça.
Parce que tu parles de pop rock, ça veut dire que à tes yeux ou à tes oreilles plutôt, il y a un registre qui sonne plus anglais, anglo-saxon quand on parle de pop rock. En plus, le titre s'appelle Missing Love.
C'est l'inverse.
Ah,
il y a un registre pop quand on est dans la langue anglaise.
Oui.
Ouais. Non, mais je veux dire pas un registre en anglais quand on est dans la... Enfin, tu vois ce que
je
veux dire.
Oui, je vois. Ouais. Je pense qu'on est sur la même chose. Mais justement, comme le disait un petit peu Simon, même ton rôle de chanteuse est plus affirmé dans ce c'est une impression qu'on a en tout cas en écoutant ta voix est plus en avant et tu l'abordes peut-être un peu moins, en tout cas je le ressens comme ça, comme un instrument, comme vraiment une lead mélodique à part entière. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette envie-là? Est-ce que toi tu t'es sentie plus chanteuse au moment de composer ce disque?
Je me suis sentie plus... On me demande parfois pourquoi j'ai voulu chanter en français. C'est pas que j'ai voulu chanter en français, j'ai envie d'écrire en français.
Ok. T'as une approche littéraire, du coup, de cet exercice.
Oui, tout à fait. En premier lieu, et donc, par conséquent, chanter en français. Oui, j'avais envie de davantage d'adresse, de générosité, de peut-être moins l'anglais. Ça peut être assez pratique pour... 2-3 images, 3-4 métaphores et rôle et jeunesse. Puis j'ai une si haute estime de la langue française et puis c'est ma langue maternelle, donc je ne pouvais pas me cacher. Je ne pourrais pas supporter écrire une merde et me dire ça passe. Mmh. Ça n'est pas possible.
Ça te rend plus exigeante avec ce que tu chantes?
Ah bah oui. Oui. Oui, puis bien sûr. Bien sûr. Oui, j'ai pas de fantasme de ce que c'est ma langue.
Oui.
Mmh.
Ton album, il s'ouvre sur, j'ai envie de dire, une addiction, finalement. La question de l'alcool chez une tierce personne.
Sur une sortie d'addiction.
Une sortie d'addiction.
Sur un mouvement vers... pas vers l'au-delà, mais...
Une incitation.
Ça, c'est trop moralisateur.
Ouais.
Suggestion.
Une suggestion.
Ouais. Et... fortement recommandée.
Et j'avais la sensation que l'addiction était quelque part un des thèmes de Crave.
Oui.
Est-ce que ça reste... C'est resté aujourd'hui un de tes thèmes majeurs et surtout... Majeur, non. Est-ce que c'est resté un des thèmes que tu souhaitais aborder et surtout, comment a évolué ton rapport à ce thème-là depuis que Crave est sorti?
Donc, c'est un thème, je dirais pas qu'il m'est cher parce qu'il n'est pas extrêmement lumineux, mais... En effet, je pense que c'est quand même un vrai sujet. qui est assez plutôt valorisé dans le milieu de la musique, etc. Enfin, c'est cool, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'ai fait ce chemin personnel qui, voilà, je suis sortie de tout ça, fonce des trucs, machin. Et forcément, ça m'a changé. Ça fait qu'on a davantage d'écoute aux autres, d'écoute à soi, une certaine lucidité quand on s'intéresse au monde qui nous entoure. Je pense que c'est pas mal d'être lucide deux minutes aussi, parce que le monde est complexe.
Et finalement, l'addiction que tu choisis d'aborder dans cette ouverture d'album,
ouais,
c'est l'alcool, parce que on sait que ta carrière vient plus de nommer un peu nightclub, soirée techno, et l'alcoolisme en soi n'est pas forcément la première image qui vient quand on pense à cet univers-là.
En fait, c'est en l'occurrence, le titre s'appelle Mon amour, tu bois trop, mais...
Pour toi, il y a quelque chose d'un peu général aussi.
Évidemment. C'est en fait de se dire, et j'ai envie de dire, même en dehors des addictions, au regard de mon expérience, que je suggère, c'est que même quand on a l'impression que, enfin, quand on est dans cette post-adolescence un peu dégoulinante, que peut être la vingtaine, qui ne l'est pas toujours, mais qui peut l'être, et qu'on a l'impression que la darkness est le terreau dans lequel on va évoluer. J'avoue que je n'aurais pas cru il y a 10 ans que je serais la personne que je suis aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas d'être de faire Pascal le grand frère, c'est plutôt de dire oh, putain, mais tout est possible, quoi.
C'est un constat avec du recul sur toi-même.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais quand j'avais signalé, quand j'avais fait un post, quand ça faisait un an que j'avais arrêté de boire, j'avais fait un post et j'ai eu un nombre de messages, mais plus que si je sors n'importe quel titre, en fait. J'ai eu un nombre de MP, mais c'était hallucinant. Hallucinant. De gens qui me disaient merci, moi aussi, ça me donne de l'espoir. Je galère et tout. Et ouais, c'est assez ouf.
Et d'ailleurs, tu dis que c'est pas un thème spécialement lumineux. Pour autant, si on compare un petit peu à Crave, moi je trouve qu'en tout cas, la première partie de cet album est beaucoup plus lumineuse dans ce qu'elle propose mélodiquement. Même avec des thèmes comme celui-ci.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que je suis pas dans un trip Bukowski sur cet album. Alors sur le précédent, un peu plus.
Un peu plus.
Ouais. Il y avait une petite satisfaction à regarder tout se péter la gueule. Aujourd'hui, j'ai satisfaction à voir les choses se construire. Mm-mm.
Simon.
Non, je voulais juste rebondir, on parlait du morceau « Mon amour, tu bois trop ». Il y a dans ce morceau une voix samplée et qui revient en fait dans l'album. Et je voudrais juste savoir ce qu'elle signifie.
Comme fil conducteur ?
Ouais. Enfin, ce qu'elle
symboliquement ?
Symboliquement, ouais, évidemment.
En fait, c'est une espèce de banque de sons un peu étrange. C'est un ensemble de voix très, très, très étrange, en effet, qui, pour moi, j'adore les voix humaines extrêmement trafiquées ou la synthèse qui se rapproche d'un thème, d'un timbre humain. Et pour moi, c'est vrai que ça raconte... c'est presque un être humain, mais... Ou alors c'est un être humain qui essaye de l'être, mais qui est en difficulté pour l'être. Et toutes ces voix synthétiques un peu, ouais, ça me... Je le vois vraiment comme une... Je visualise vraiment un être vivant qui essaye, mais c'est dur.
Et d'ailleurs, un autre morceau que moi j'avais choisi pour aborder justement ton approche de la composition, c'est Vorel.
Vowel.
Vowel,
ouais.
Pardon,
ouais.
Excuse-moi.
Ouais, ouais.
Qui marche aussi beaucoup comme ça, au point même on finit par être dans le flou entre est-ce que je suis en train d'écouter une ligne de basse ou est-ce que je suis en train d'écouter une voix qui commence à me parler. Et je voulais prendre ce morceau un petit peu en exemple pour aborder la façon dont tu composes, dont tu choisis les éléments que tu vas assembler dans ton morceau. Qu'est-ce qui, dans un morceau comme celui-là...
Il y a beaucoup de vie ici, j'aime
bien.
Bah
oui, il y a du passage. Ouais, ouais. On peut le dire, on s'est mis dans l'accueil de la maison des initiatives étudiantes où on est, puisque ça nous permettait d'avoir un setup un peu plus lumineux, un peu plus grand.
Et on est là pour ça.
On est content de t'accueillir dans ce cadre-là. Effectivement, la porte sonne de temps en temps. Justement, dans Vowel, du coup, quelle a été ton idée directrice ? Quel est l'élément mélodique que tu as, qui t'a accroché dans ce morceau. Tu disais tout à l'heure qu'à posteriori, c'est parfois un peu difficile de s'en rappeler parce que ta façon de composer vient du fait de faire, finalement, et de voir.
Celui-ci, je me souviens que ça doit être le seul où j'ai fait rec, j'ai joué et c'était terminé.
D'une ligne.
Ah ouais, totalement. Et ensuite, où je l'ai peut-être réenregistré 2-3 fois, mais d'un seul coup, et j'ai dû l'éditer après parce qu'il était un peu long. Et oui, j'ai dû éteindre la lumière, mettre mon petit néon bleu et j'étais bien. Ouais, j'étais hyper bien. C'est un super bon souvenir.
On a envie un peu ce sentiment, comment tu le décris, ce côté très cocon que ça peut avoir pour toi de composer.
Ouais.
Mais d'ailleurs, tu décris ta façon de composer comme cette façon de faire et les choses viennent comme ça. Est-ce que tu dirais que la façon dont toi t'es venu à la musique, le fait que tu t'es beaucoup aussi produit à mixer sur scène, à être devant des gens pour faire de la musique un peu tout le temps, est-ce que ça a guidé le fait que tu composes comme ça aujourd'hui? Parce qu'à côté de ça, tu es une multi-instrumentiste hyper talentueuse en plus, tu maîtrises beaucoup plus d'instruments que je peux en dessiner. Comment est-ce que ce parcours-là fait que c'est comme ça que tu composes un petit peu, tu penses?
Tu me demandes s'il y a un rapport entre le DJing et la composition?
Ouais. C'est le fait que tu sois souvent en face de personnes pour produire quelque chose, même si c'est pas la composition à proprement parler, a une influence là-dessus.
Honnêtement, non, je crois pas, parce que le DJing, pour moi, c'est vraiment un hobby tierce, autant que le Time's Up, ou voilà ce que ça représente pour moi. Et même si je m'éclate à le pratiquer quand je le pratique, mais j'ai pas à un moment donné, on m'a posé la question, est-ce que tu veux aller là-dedans? Et j'ai dit non, vraiment, j'ai jamais voulu avoir de carrière de DJ, c'est quand même...
Il y a moins de mime qu'au Time's Up.
Franchement, va voir un DJ, il y a du mime. Hein. Il y a beaucoup de mime. Donc non, je dirais même que j'ai arrêté de mixer à un moment donné parce qu'on me parlait beaucoup de la nuit, alors qu'en vrai, je m'en fous de la nuit, si tu veux. J'ai commencé la musique à 7 ans. La techno, pour moi, c'est... En vrai, j'adore ça. Mais mixer, c'est tellement facile, en fait.
Ok.
Non, mais je parle pas de caler des vinyles... à l'ancienne, mais aujourd'hui mixer c'est quand même, enfin c'est extrêmement facile.
Tu sais qu'on va devoir le faire dans pas longtemps et j'aimerais me dire la même chose que toi.
Bah, c'est-à-dire que, enfin les enchaînements, qu'on a, c'est quand même vraiment pas compliqué. Hein.
Mais ça a été un terrain d'expression important pour toi au début de ta carrière, notamment même sur l'aspect plus militant de la façon dont tu te produis. Mais t'avais pas envie d'être spécialement rattaché à ce domaine-là, qu'on te voit comme une...
Bah, en fait, ce qui m'ennuyait, c'est que je me souviens quand les Inrock, quand j'avais sorti mon EP en 2014, avaient publié un papier en écrivant « La DJ passe au format chanson ». Excuse-moi, je fais du piano depuis que je suis en CE1, en fait. Donc tu ne me dis pas la DJ passe au format chanson, mais parce que je voyais que dans les chapeaux d'articles, dire DJ, Gwyn, nuit, c'était cool.
Ouais, ça.
Mais je me sentais un tout petit peu à l'étroit.
Ouais, je comprends.
Donc c'est une part de moi que je vais cesser de renier, mais c'est pas essentiel. Et ça n'influe pas sur ma composition.
Et
l'inverse est vrai, par contre.
Ah.
Ah ouais, je pense, ouais. Ouais, quand je fais des DJ sets, j'essaie d'être assez créative et je pense que le fait que je sois musicienne.
Tu veux pas mimer.
Non, c'est très percussif. Ouais. J'ai même déjà une ampoule au pouce.
Tu dis
après un DJ set.
Ah oui ? Tu dis que tu reviens, tu te sens aujourd'hui plus sereine par rapport à ça, justement. Plus sereine, c'est pas le mot, mais tu retournes avec plus de plaisir après justement cette coupure-là qui t'a permis de laisser passer un peu.
Oui, mais c'est parce que je suis davantage identifiée, donc je peux aller faire un set sans qu'on me prenne, sans qu'on me présente comme la DJ. Ouais. Donc voilà, mais en France, les gens sont un peu... C'est catégorie, donc c'est pas simple.
Simon.
Moi, je voudrais prolonger la discussion sur la composition, l'aspect composition, notamment sur le morceau Il pleut des hommes. Tu parlais tout à l'heure du.
C'est un de mes préférés.
Du côté, c'est pour le coup celui que j'ai préféré, moi, de l'album. Et le côté assez pop-rock et très orchestral à la fin. Comment il a été travaillé? Comment cette. Parce qu'on sent, en fait, tout au long qu'on écoute le morceau.
Fut long.
Une sorte d'émergence un peu de naissance de voilà quelque chose qui pousse et qui fleurit et qui s'enrichit au fur et à mesure qu'on avance dans le morceau. Comment c'est né?
Un peu de la manière dont tu le décris, mais sur un processus qui s'est vraiment étalé sur plusieurs mois, je dois dire. Il est resté à l'état d'instrumental pendant un long moment. J'arrivais pas à trouver le truc. Euh Ah oui, ensuite il y a eu cette deuxième, la fin, cette explosion à la fin. Ça, je l'ai découvert en même temps que je le faisais. Et je savais que c'était une promesse avant même de l'écrire dans le couplet. Mais la promesse a mis du temps à être tenue. Donc sur celui-ci, j'ai vraiment beaucoup bataillé avec l'aide de Jean-Sylvain Le Gouic, avec qui j'ai produit l'album. Et petit à petit, ça s'est éclairci, la structure s'est éclaircie. À la base, j'avais vraiment... c'était drum, synthé, il y avait très peu de pistes. Et ensuite, j'ai commencé à écrire et à essayer de chanter dessus... en essayant de ne pas chanter, justement. Pardon.
Ça n'a pas l'air d'être une mélodie de chant.
Oui, bah, c'est assez droit. Hein. Mmh. On est sur un nombre de notes assez réduite dans les couplets. Et à chaque fois que j'essayais de trop chanter ce morceau, ça partait, ça devenait un espèce de truc. Enfin, c'était laid par rapport à l'instru. Et ça a été long. Ça a été long, mais ça valait le coup. Ouais.
Ouais, je pense que ça valait le coup. Ouais, hein, parce que c'est un morceau même dans l'atmosphère, en général, c'est un morceau...
Bah, dans l'écoute, c'est même presque un titre un peu pivot, j'ai envie de dire, parce que
je disais que
la première partie de ton disque était assez lumineuse, je trouvais, jusque dans les sons que tu vas choisir d'utiliser. Et ce morceau, c'est celui qui va ramener presque de la tragédie un petit peu dans ce qui se passe. Il a une espèce de grandiloquence théâtrale, vraiment qui assoit quelque chose d'important. Mm-hmm. Et c'est là qu'on retrouve une certaine couleur qu'on retrouvait un peu plus sur Crave, par exemple.
Ah, c'est drôle. Alors, j'approuve l'idée du pivot, tout à fait.
Mais pas vers la même direction que ce que je ressens.
Mais je pense que tu penses au morceau Last Track sur Crave. Avec cette batterie comme ça, assez... Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Dans ce sens-là, oui. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait ce côté aussi. J'avais dans les refrains, j'avais du Gainsbourg dans la tête, mais j'avais aussi des trucs indéricains. Il y a aussi ce morceau complètement fou. Je sais pas si vous voyez le morceau Le chat du café des artistes de Jean-Pierre Ferland, qui a été repris ensuite par Charlotte Gainsbourg. Mais ce morceau, je vous le recommande fortement. Il est vraiment complètement fou. Et dans les cuivres, un peu 70s, chelou comme ça, il y a ce truc là à la fin. Je trouve que c'est le morceau dans son rendu final, donc mixé, masterisé, qui me donne le plus de kiff dans les oreilles, en termes de spectre et tout.
Oui, oui. Bah, c'est exactement ce que je ressens. Je trouve que c'est très enveloppant, très chaud, très abouti. Et le son est.
Le son, je le trouve trop beau.
Ouais. Vraiment, je suis d'accord. Ouais.
C'est assez, j'allais dire, agréable, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu as vraiment beaucoup de recul sur les morceaux que tu as produits. Tu sais, il y a des choses que tu as produites dont tu sais dire, que tu n'as pas gardé au final, mais tu te dis tout à l'heure, ça, ce que j'ai fait, c'était très laid. Et là, en parlant de ce morceau, tu dis, je le trouve très beau. J'aime bien ce recul que tu as sur ton propre travail. Ce n'est pas évident, des gens pour qui c'est difficile.
Quand je parle du beau son, je parle quand même, il y a beaucoup de mixage, hein, oui. De la prod. Mais...
Évidemment, ce que j'entends quand tu parles du beau son, ce n'est pas tant la composition, mais c'est vraiment
la prod et
sonore.
Le mix. Ouais. Que pour moi, c'est j'ai atteint un son sur ce morceau, je trouve. Sur l'album en général, mais...
Mais qui est assez intéressant, parce que je trouve que c'est un son qui est presque très... Enfin, très pop, quoi,
en fait. Il est très pop.
Très pop,
il a un truc de grande chanson française, entre guillemets. Enfin, d'une époque qu'on affectionne tous, je crois. Mais c'est difficile de pas être ringard quand juste t'as une vraie batterie, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est compliqué.
Et pour autant, ça revient un petit peu d'une façon presque stéréotypée, ces sonorités pop, parfois un peu 80s. Donc, en soi, ce qui est particulier, c'est que ça ne s'inscrit pas non plus dans cette vibe un peu cliché qu'on retrouve beaucoup dans la chanson française actuelle. Mais ça évite cet écueil-là. Et c'est ça qui rend, je trouve, l'ensemble assez précieux.
Ben, merci beaucoup. L'idée, c'était pas. C'est pour ça que je précise toujours, j'avais pas envie de chanter en français. Je voulais pas rejoindre une scène où je me suis pas dit, vas-y, là, pousse le bouchon sur le français, parce que ça sera plus facile d'avoir France Inter. C'était pas ça le projet.
Mais tu l'avais à l'esprit quelque part, c'est-à-dire que tu redoutais un peu ce truc-là, en allant vers le français, qu'on veuille te mettre dans une autre case, finalement.
Non, c'était mon ambition, pour le coup. J'ai rien prémédité, mais je savais ce que j'avais envie de faire avec la langue française et d'apporter à la. d'apporter dans la musique d'aujourd'hui.
Puisqu'on s'attarde sur... Vas-y, Simon, je t'en prie.
Non, j'imagine qu'on aura tout le temps d'en discuter plus tard, parce que c'est un sujet qui est un peu long aussi, mais c'est l'aspect retranscription, parce que retranscrire un son, enregistré, travailler, retravailler, re-retravailler en studio, comment tu le retranscris en live ? Est-ce que là, déjà, tu t'attelles au travail depuis un certain temps ? Je crois que tu as une première date.
Ah oui, c'est ça, tu as une première date. Alors,
à la fin de la
quand
semaine.
Quand on nous entendra, ce sera le week-end dernier.
Ouais.
Donc ça se sera très bien passé et ça aurait été incroyable.
Pour les 15 ans du label Infiné, chez qui tu es signé.
Mais donc pour nous, c'est samedi qui vient. Et justement, comment tu, comme le dit Simon, comment tu as approché cette retranscription en live ?
On est deux sur scène. Pour l'instant, donc avec Jean-Sylvain Lewick, avec qui j'ai produit l'album. En fait, je suis beaucoup... j'ai pris le parti d'être, pour l'instant, beaucoup batterie ou percussion.
Ouais.
Et chant. Un peu moins de clavier. Donc, c'est vraiment plus performance en ce qui me concerne. Là, je suis en plein dedans, puis voilà. Ouais. Pour des raisons temporelles qui échapperont ou pas à vos auditorices. Et donc voilà, il y a ce truc d'une énergie un peu assez brute que j'essaye de garder. Pas trop de monde dans les bandes, enfin dans l'ordinateur, c'est joué, dans la mesure de ce qu'on peut faire à deux. Mais c'est assez... oui, je suis très contente de ce qu'on est en train de monter. Et je pense que pareil, c'est moins, peut-être moins voilé. Je suis moins planquée derrière des tas de séquences, des tas de trucs. Et après, c'est assez difficile, techniquement, mais
oui, parce que c'est ambitieux quand même. Enfin, ta musique est quand même ambitieuse dans l'articulation, et donc la retranscription en live, c'est, j'imagine, quelque chose de difficile.
Je veux dire, ce qui est difficile, en l'occurrence, c'est parce que c'est de jouer de la batterie debout avec la grosse caisse derrière au talon et de chanter en même temps.
Ouais, grosse caisse au talon, intéressant.
Parce qu'il me faut de l'équilibre.
Ouais. Ouais.
Donc voilà, c'est un petit sacerdoce et c'est vraiment pour la beauté du spectacle. J'ai vraiment beaucoup de moments de doute, mais voilà, on part comme ça.
Bah écoutez, je vous propose qu'on s'écoute Hard Billy, qui est le titre de ton nouvel album qu'on a décidé de programmer, nous, dans la Fresh List de novembre sur Radio Campus Paris. Et on revient juste après ça.
Yeah.
Hard Billy de Léo Limpernet, morceau qu'on a programmé dans notre fresh list de novembre, sorti au début du mois, que vous pouvez écouter tout le mois de novembre sur Radio Campus Paris, extrait du cirque, de l'album Le Cirque des Consolations, de Consolation, qui sort le 19 partout, sur toutes les plateformes de streaming et dans tous vos meilleurs disquaires. On peut le dire comme ça.
Ouais, en CD vinyle aussi. Ouais.
En CD
ouais,
et
ouais.
En vinyle. En attendant, certes, c'est le mois de novembre sur Radio Campus Paris, mais c'est toujours un petit peu l'été pour toi, Faustine.
C'est toujours l'été, en effet.
I hate the winter, can't stand the cold, I tend to cancel.
Imaginez, été 2021, la pandémie est enfin sur pause. Pas de masque, pas de Zoom, pas de télétravail. Tous ces mots ont été laissés à Paris. Non, là tout de suite, c'est le bruit des cigales, la chaleur du soleil et le clapotis de l'eau dans la piscine. Ce soir, vous irez prendre l'apéro et demain, selon l'heure à laquelle vous vous leverez, vous irez au marché. Là, juste à cet instant, votre vie est une scène de Call Me By Your Name et c'est franchement chouette. Dans la dernière émission de la Fresh List, j'avais pris l'initiative d'officialiser la fin de l'été et j'ai même eu le culot de m'en réjouir. On parlait fantômes, Halloween et feuilles mortes et on trépignait d'impatience en attendant le nouvel album d'Emma Ruth Rundle. On célébrait donc l'arrivée de l'hiver, sauf qu'aujourd'hui, bah, on va rêver des beaux jours passés. Bah ouais, Erwan, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Et tu n'en fais pas partie.
Ma nostalgie, elle vient de la réédition en format deluxe de l'album Solar Power de Lord, album qui accompagnait une bonne partie de notre été à quelques-uns et quelques-unes d'entre nous ici, je pense. Avec ses sonorités vibrantes et étouffées, parfois carrément viscérales, portées par des guitares dont la réverb dépasse l'entendement, le tout étant loin d'être particulièrement déplaisant. Donc voilà, la chanteuse néo-zélandaise continue son aventure et laisse briller le soleil encore un petit peu, du moins dans nos cœurs, en ajoutant deux bonus tracks, Helen of Troy et Hold No Grudge, et en dévoilant un clip pour le morceau Fallen Fruit. Moi, je la trouvais déjà très adroite d'avoir sorti Solar Power fin juin pour annoncer les vacances après l'année grise qu'on venait d'affronter, mais aujourd'hui, je salue d'autant plus sa présence d'esprit de nous offrir de nouveaux morceaux pile au moment où j'avoue, voilà, je le dis, je regrette un peu l'époque où je ne passais pas une bonne partie de mes journées à grelotter. Réécouter ces titres maintenant qu'on est passé à l'heure d'hiver, ça transporte. C'est comme s'emmitoufler dans un souvenir où le temps bouge au ralenti, tout dégoulinant de miel. C'est l'été des films Sundance où tout est couleur pêche, où les bleus sont nécessairement des bleus piscine et où, sans t'y attendre, tu vas rencontrer l'amour qui va changer ta vie. Bref, vous savez, ce fameux été de vos 17 ans d'après Hollywood. Sauf que Lord ne fait pas les choses à moitié et ses chansons ne sont pas que des chansons sur lesquelles boire du rosé sur la terrasse. Certes, c'est principalement ce qu'on a fait parce qu'il était temps qu'on larve au soleil en fredonnant, mais maintenant, je vous invite à vous enrouler dans un plaid et à tendre l'oreille.
Got a wishbone drying on the windowsill in my kitchen. Just in case I wake up and realize I've chosen wrong. This life that I have, the vine hanging over the door, and the dog who comes when I call. But I wonder sometimes what I'm.
Ok, Lord, ok. J'ai jamais été une immense fan de son travail, j'ai aimé des morceaux par-ci par-là, mais là elle vient de conquérir mon cœur. Attention, je suis pas musicologue ou spécialiste en la matière, donc tout ce que je vais raconter part d'une analyse purement subjective. Ce que j'aime dans la musique, c'est la manière dont ça peut t'animer de deux façons. D'un côté, t'as la mélodie et de l'autre, t'as les paroles. Mais on remarquera qu'il est tout de même rare qu'on parle des terribles questions du sens de la vie sur des notes groovy. Prenons Keaton Henson, par exemple. Lui, pour te raconter qu'il est en couple avec quelqu'un qu'il aime pas tout à fait parce qu'il a laissé partir celle qu'il aimait vraiment, bah, tu l'entends que ça va pas fort pour lui. Donc souvent, le thème abordé se ressent autant dans les paroles que dans les sonorités. Et boum, voilà Lord qui nous offre Solar Power, qui dégage une énergie super mimi, toute chaude, mais qui raconte que tout est éphémère, que le temps passe. Est-ce que j'ai fait les bons choix et la planète va mal, pourtant on continue de danser parce que c'est comme ça, de toute façon la vie continue. Même si on décidait de s'arrêter pour reprendre son souffle, tout continuerait. Sauf que, le temps c'est une construction et on fait partie d'un tout, les gens vont et viennent, et on fait tous et toutes partie de l'univers. En fait, on n'est que l'univers qui rêve de lui-même. Et puis c'est quoi la conscience? Est-ce que tout n'est pas finalement de la poudre aux yeux? Moi je trouve que la vie doit être la plus légère possible parce qu'elle est quand même pas très longue, relativement incertaine, et qu'à la fin c'est la mort. Autant s'amuser. Oh, mais la mort, mais quelle question, ça, mourir, c'est quoi mourir, c'est comment mourir? Trop terrifiant de se dire que rien ne changera jamais vraiment entre le moment où je suis là et celui où je serai pas là. Sauf que si, je serai toujours là un peu, parce que mon corps sera encore là sur Terre. Mais ma conscience, elle sera où? Elle part, elle s'éteint, de toute façon, soit t'es vivant, soit t'es mort, il n'y a pas d'entre-deux. Bon, reprenons. Le simple fait d'avoir le temps de se poser ces questions-là, c'est que finalement, tout ne va pas si mal. Et pourtant, ça va pas fort puisqu'on se les pose. Fallen Fruit, Hold No Grudge ou Stone at the Nail Salon me font l'effet des cartes postales avec des petits chiens trop mignons qui font vraiment plaisir à recevoir et afficher au-dessus de ton bureau, mais sur lesquels sont rédigées de tristes nouvelles. C'est tout le paradoxe de la vie. Rien n'est manichéen, ni noir, ni blanc. La seule chose certaine, c'est que ça s'arrête à un moment, et encore, on ne sait pas si ça s'arrête vraiment. Mais bien qu'elle soit particulièrement terrifiante, cette incertitude, elle pousse à faire des trucs, à fabriquer des concepts pour rendre l'existence plus supportable, ou justement à se poser deux fois plus de questions. Pas facile d'être humain avec deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles et un cerveau bien trop complexe pour se comprendre lui-même. Mais heureusement qu'il est aussi assez intelligent pour développer la notion de musique, comme d'autres moyens de raconter ce qui se passe dans les courants électriques qui relient ses neurones. Je crois que cet album est l'un des rares que j'écoute avec plaisir, même si les mélodies parfois m'ennuient, je l'avoue, mais juste parce que les paroles résonnent en moi. Mais allez, venons, on se prend pas trop non plus la tête et on se dandine sur les notes. Quelle sacrée aventure que la vie.
Merci beaucoup, Faustine. Stone at the Nail Station, qui était dans la... qui était dans la Freshlist d'octobre sur Radio Campus Paris, qu'on est très heureux de réécouter avec toi. Vous écoutez toujours l'émission de la Freshlist sur Radio Campus Paris 93.9, toujours avec Léonie Pernet, à l'occasion de la sortie de ton album, Le Cirque de Consolation. Je me demandais si ton album était... J'ai pas envie de parler de frontalement de chansons d'amour, mais moi je me suis imaginé un album fait par quelqu'un qui avait envie de parler un peu plus d'amour, par moment, en tout cas. Il y a plus de mentions un petit peu de l'être aimé, il y a même une chanson qui parle un peu plus directement de relations charnelles.
Tu penses à laquelle ?
Je pense à Rebours.
Ouais, tout à fait. Enfin, ou de la difficulté d'en avoir aussi. C'est quand même, c'est contrarié, hein. C'est le corps contrarié.
Oui, c'est pas évident.
Ouais. Ouais, ouais, le corps contrarié, on dirait un sujet de thèse hyper relou. Le corps supplicié. Oui, c'est vrai que bah, l'album s'appelle Le Cirque de Consolation. Donc, c'est un geste d'amour, la consolation.
C'est pas, quand tu parles du cirque de consolation, c'est pas chercher à se consoler. C'est quelque chose qui se fait en interaction avec.
C'est à consoler et à se consoler. C'est une proposition circulaire, comme l'indiquait ton lapsus de début d'émission. Et puis oui, en effet, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a davantage l'être aimé évoqué de manière plus directe. Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui t'a guidé vers ça ?
On se le demande bien. non mais je pense oui c'est certes la vie est une vie amoureuse personnelle etc mais je pense que l'amour sous toutes ses formes participe de la possibilité du miracle et du changement. Ça fait un peu chrétienne transie quand je dis ça,
non,
mais
juste du fait du bien quoi.
Oui, et puis de l'espérance. Ouais. Parce que la consolation, c'est une forme d'espérance, quand même.
La possibilité d'aller mieux.
La possibilité, ouais, ça ouvre la brèche. Ouais. C'est un mouvement, en tout cas, entre deux états. Ouais.
Est-ce que c'est un sujet plus particulier à aborder ? Ou pas spécialement ?
Quoi donc ?
L'amour.
Bah, disons que j'ai même dû me réfréner à un moment. Parce
ah ouais ?
Que c'est vrai. Ouais, ouais, parce que bah, mon label m'avait dit... Bon, là, il y a Mon Amour, tu bois trop, il y a Mon Amour dans un rebours. On est obligé de les espacer, Léo, parce que... et c'est vrai que du coup, spontanément, dans d'autres morceaux, j'avais tendance à utiliser ce mot. Et donc, je me disais, bah non, là, non, mais je pense que...
Donc, ça a été un élan chez toi, quelque part.
Ouais, mais la démarche... Enfin, ma démarche dans cet album est assez... certes toujours un peu mélancolique mais assez tendre quand même.
Bien sûr.
Ouais. Le cirque de consolation, le morceau éponyme, c'est une proposition,
oui.
Et une main, enfin tu
une
vois, une proposition d'être ensemble.
Une des autres productions récentes auxquelles tu as participé pour le coup, c'est la série H24, qui est une série. Alors, je vais essayer de la décrire, tu m'arrêteras si jamais je le fais en des termes qui ne sont pas bons. une série de courts-métrages qui, chacun, portraitise un moment de vie, on va dire, pas très agréable, de la vie d'une femme, à travers un monologue tenu par une comédienne et une mise en scène que je n'ai regardé que 7 épisodes, je crois, mais que je trouve brillante, extraordinaire. Notamment l'épisode, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais de l'approche du professeur de musique.
Ah, c'est marrant, oui, Clémence Poésie, ouais. Avec Cécile Brunkel. Ouais.
Tout à fait.
Oui, il est fin celui-là, ah, c'est vrai que c'est très fin.
En termes de mise en scène, je trouve ça extraordinaire.
Je suis d'accord.
Ce sont des moments plutôt oppressants et il y a dû avoir un travail de ta part du coup à ce niveau-là.
Je confirme.
Comment tu as, toi, déjà peut-être on peut parler de comment s'est faite ta collaboration avec ce projet-là.
Alors, bah déjà, je vais commencer par ne pas te féliciter, puisque sur les 25, c'est le seul dont je n'ai pas fait la musique.
Mince.
Donc, comment s'est passée cette collaboration ? Dans un premier temps, donc donc avec Valérie Uria et Nathalie Masduro, les directrices de collection et réalisatrices principales de la série, parce qu'il y a aussi des réalisatrices invitées, comme Clémence Poésie, que d'autres connaissent comme Fleur de la Cour dans Harry Potter. Donc j'avais commencé à proposer, donc j'avais cette idée de décliner, de faire un espèce de thème et variation comme ça, mais qui part vraiment, voilà, pas un prétexte pour être flemmard, un vrai truc. Donc j'avais commencé à proposer déjà des thèmes avant qu'elle tourne, parce qu'elle souhaitait de la musique avant même de tourner.
Parce que vous vous connaissiez ?
Non, elles m'ont contacté. Elles m'ont contacté.
Très en amont du projet, du coup.
Un peu en amont, ouais. Ce qui est agréable. Ouais, de ne pas arriver à la fin quand il y a déjà eu deux compositeurs qui se sont fait jeter, il faut le rendre avant-hier. Ce qui arrive assez régulièrement dans la musique de film. Et donc voilà, j'ai commencé à leur faire des propositions qui les satisfaisaient. Et puis ensuite, elles ont tourné, elles ont beaucoup tourné, donc, parce qu'il y a donc un film, une idée. Okay, ça veut dire. Un set de déco à chaque fois, un décor différent. Enfin, c'était une prod assez folle. Et donc ensuite, quand elles sont vraiment rentrées en montage, le premier jour du montage, moi, je leur avais envoyé encore du son, de nouveau. Je sature un peu ?
Non, c'est Simon qui a besoin de mieux entendre.
D'accord. Ça me touche. donc voilà, les monteurs et monteuses aiment monter en musique. C'est bien de leur livrer vite parce que sinon ils mettent des musiques random mais ils s'habituent à ce rythme-là, donc c'est pénible ensuite. Et ensuite c'était hyper intense parce qu'en fait tous les jours j'avais donc Tina Baz, la monteuse, qui a eu un César cette année pour le montage de Adolescente de Sébastien Lifshitz. Et voilà, on s'appelait trois fois par jour. Et elle m'envoyait, j'avais les films, j'envoyais une première idée, on taillait dedans, etc. Et c'était un dialogue incessant, c'était une masse de travail énorme et ça a été très très riche et vraiment passionnant.
Et justement, dans ce processus, je me demandais comment ça fonctionnait entre toi et les personnes qui sont à la création visuelle. Tu dis que tu arrives du coup en amont même du montage. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as déjà... un script, est-ce que tu as déjà vu des images quand tu commences à... Parce que tu as proposé de la musique très tôt, tu nous disais.
Il n'y avait pas d'images. Il y avait les monologues qui étaient déjà écrits.
Qui étaient écrits, d'accord.
Donc voilà, et puis des discussions.
Que tu avais, du coup, ça se faisait beaucoup en dialogue.
On avait... Oui, j'avais mémorisé quelques... Je ne vais pas dire mots-clés parce que ça va vomir, mais...
Des idées principales.
Oui, on avait discuté des idées, en effet, en amont, et puis ensuite, il faut faire, quoi.
Quand tu parles d'idées, tu parles d'intention ou ça peut même être des idées musicales, vraiment ?
Plutôt d'intention, et parfois de texture.
Ok.
Ouais, exactement.
Et toi, comment tu t'y prends par la suite pour retranscrire cette... Je ne sais pas si le mot tension est approprié, mais il y a quelque chose de... Il y a une espèce de crispation un peu ambiante autour de la majorité des moments qui sont racontés. Comment, musicalement, tu transcris ça ? Est-ce que tu as... Qu'est-ce qui te vient à ce moment-là ?
Parfois, on ne cherche pas forcément à illustrer ce qui se passe dans le film. Il y en a où on va chercher, par exemple, plutôt de la largeur selon les plans. On va chercher un contre-pied, un contrepoint. Il faut m'arrêter quand je dis des conneries comme ça. Après, j'étais baignée dans le projet quand même. En fait, la musique de film, comme c'est parce que j'avais fait quelques courts-métrages avant, etc., y a un timing. Donc il faut rendre, il faut délivrer. Voilà, la deadline, c'est pas pour de faux, c'est pas pour faire peur. Il y a du monde dans la chaîne. Si on est trop en retard, ça se pète la gueule. Donc ça n'existe pas. Enfin, il faut être à l'heure. Mmh. Et donc c'est des contraintes. Et je sais pas pourquoi je parle de cette temporalité-là. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça.
Est-ce que la contrainte te force à aller dans une direction peut-être voilà. plus directement ?
Je te remercie. Sur H24, en me couchant et en me levant et sur mon vélo, je réfléchissais à ce que j'allais faire au studio, alors qu'avant, bah, j'arrivais au studio, j'avais mon ordi et puis tiens, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui ? Là, je me disais, ok, là où tu vas aller, j'y réfléchissais en permanence pour vraiment pas perdre de temps parce qu'il n'y a pas le temps, tout en restant créatif.
Est-ce qu'il y a une notion de design sonore presque ? Est-ce que tu l'as abordé comme ça ?
Non.
Pas du tout.
Et d'ailleurs, non, pas tellement, parce que d'ailleurs, dans les quelques projets où on m'a demandé un peu éventuellement, par exemple sur une pièce de théâtre ou une pièce de danse que je vais faire là prochainement, où j'ai dit en fait, moi, les bruits blancs et tout ça, tout ce qui est design sonore, prend quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le faire. Après, de l'ambiance et des textures, oui, tout à fait.
Et ça, du coup, c'est une composition à l'image ? Ou c'est toi qui l'image comme ça, et derrière, le montage est fait, et ça colle et ça marche ?
Ça, ça dépend vraiment. Okay. Vraiment, sincèrement. Il y a parfois, elles ont monté... les films sont les séquences sont montées avec quelque chose que je leur avais déjà envoyé, en sachant pourquoi. Et d'autres fois, elles n'avaient pas ce qu'il fallait... et donc elle m'envoyait un premier montage et j'y réagissais.
Ouais. Exercice intéressant.
Passionnant. Ouais.
Et justement, cette relation, tu la connais toi aussi un petit peu dans l'autre sens, j'ai envie de dire. T'as toujours eu des clips très forts, je trouve. Celui de Hard Billy, par exemple, aussi est
Merci.
Important.
Ouais, c'est mon préféré.
Et
en attendant le prochain.
Et tu as travaillé avec, en tout cas, j'ai l'impression, je pense que c'est le cas pour Hard Billy, j'ai l'impression que c'est le cas de l'ensemble de tes clips, tu travailles toujours avec des gens qui ont une vision, quoi. Tu partages rarement quelque chose de générique accompagnant ta musique. Du coup, cette relation, tu la vis aussi dans l'autre sens. Tu proposes ta musique à des gens qui vont devoir faire de la création visuelle dessus. Comment ça fonctionne, cet échange, dans l'autre sens, justement ? Peut-être en prenant l'exemple de Hard Billy.
Hard Billy, c'était particulier parce que c'est une idée que j'avais déjà fait des tests sur des images notamment de danseurs zaouli. La danse zaouli, c'est une danse traditionnelle de la Côte d'Ivoire, entre autres. Extrêmement rapide, avec un jeu de jambes complètement dingue. Donc j'avais déjà essayé de placer le morceau sur des séquences. Mais comme je ne suis pas réalisatrice, j'ai voulu faire appel à quelqu'un, en l'occurrence Jean-Gabriel Perriot, qui est pour moi vraiment un grand réalisateur, qui a notamment... Il vient de sortir Retour à Reims, là. Et donc, il s'est saisi de l'idée, il l'a élargi à l'idée du masque en général. Mais donc, ça, c'était un cas particulier parce que j'avais une intuition esthétique, pour le coup, en amont, que j'ai eue très, très tôt en faisant le morceau.
C'était la première fois que, à propos d'un morceau, tu avais une intuition esthétique comme ça ?
C'était pas la première fois que j'avais une intuition esthétique, mais c'est la première fois que j'y ai cru sans me poser de questions et que j'ai testé. Avant de contacter, j'ai fait des petits montages de merde, mais où j'avais testé si au niveau sensation, émotion, il se passait un truc, et donc c'était le cas, donc j'ai pu ensuite.
Et d'habitude, c'est plus une question de faire confiance à quelqu'un, de lui confier ce qu'on a pu faire.
Ouais,
et
puis de beaucoup discuter avec. Ouais. Oui, non, je suis pas du genre on va chercher une boîte de prod parce qu'il faut sortir le clip, et puis. Et puis on voit ce qui se passe. C'est quand même pas rien, l'image, la représentation, même quand je suis pas dedans. D'ailleurs la plupart du temps, je suis pas dans les clips. Ouais, c'est une partie importante. Après, pareil, c'est aussi ça peut être des terrains de jeu et c'est aussi parfois des obligations d'aujourd'hui qui peuvent être un peu chiantes parfois.
Dans quelle mesure le fait que cette intuition te soit venue et que tu y aies fait confiance pour Hard Billy peut être éventuellement annonciateur de la récurrence de ce genre d'envie et de peut-être toi te prendre en main...
Quelle plume et quelle délicatesse. Oui, ça participe en effet du... on s'affirme avec le temps. J'ai encore plein de choses à apprendre et à découvrir, mais c'est certain qu'il y a des endroits de confiance que je prends et donc j'ai envie de... J'aime beaucoup le cinéma, en effet. J'ai envie de m'impliquer. J'ai envie que ça me ressemble le plus possible. Donc,
faut en avoir la curiosité, parce que tu dis on a des envies avec le temps, et mais il faut aussi être curieux de ce genre de choses, même sur ne serait-ce que sur l'aspect technique.
Bon, l'aspect technique m'intéresse pas.
Ok.
Mais en revanche, les clips, tout ça est une extension de la musique, donc forcément ça ne peut pas ne pas m'intéresser. C'est jusqu'où je pousse, qu'est-ce que je vais aller chercher. Pour moi, un Billy, c'est presque, il y a un truc synesthésique quasiment.
Ça participe d'une envie d'avoir un contrôle total sur ce que tu livres aussi.
Un contrôle.
T'aimes pas le mot contrôle?
Si ça t'ennuie pas.
Ouais. Rien m'ennuie.
C'est pas un contrôle, c'est l'envie de je vais pas dire art total, ça fait vraiment fasciste.
Ouais.
C'est effrayant. Mais envie de déployer dans le plus d'endroits possible de l'imaginaire la proposition initiale.
Je préfère ta formulation. Tu sais, nous, on est les programmateurs de Radio Campus Paris, donc on choisit chaque mois les 30 à 40 titres récents qu'on va proposer à nos auditeurs.
Mm-hmm.
On est sur un cycle assez long, et nous, on avait envie ce soir de te proposer de jouer un petit peu aussi à ce rôle-là, c'est-à-dire de nous partager des morceaux qui te plaisent et de nous expliquer un petit peu pourquoi ils te plaisent. Le premier d'entre eux, c'est un morceau de Balaké Sissoko.
Ah oui.
S'appelle
Khadija, je crois. En feat avec Pierre Sacchini.
Ouais,
c'est ça.
Qu'on va s'écouter maintenant, et je te laisse nous en dire deux mots si tu le souhaites.
Ouais, j'adore ce morceau.
Khadija de Balaké Sissoko, qui est un morceau que tu nous...
C'était court ?
Non, on continue, il est en dessous de ta voix, on peut continuer d'en parler, on va pas du tout l'enlever, t'en fais pas.
Ça marche.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce morceau en particulier ?
Tout.
Donc
Balaké Sissoko, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est donc le maître de la kora, musicien malien, griot, que j'adore, et Pierre Sfaccini... C'est un mec extraordinaire que je vous recommande fortement, notamment pour les amateurs de folk, mais folk twisté, parce qu'il y a un lien très fort avec les folklores de manière générale, que ce soit du monde arabe, d'Afrique de l'Ouest ou de Sicile. Je trouve cette rencontre très très belle. J'aime ces deux artistes énormément séparément, et là donc pour moi ce featuring c'est un régal. Je trouve ça hyper doux. C'est juste magnifique en fait, c'est de la beauté gratuite. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait genre, tenez.
Très grande finesse dans le jeu à l'instrument à cordes. La kora.
C'est une kora.
Très grande finesse dans cette instrumentation. Tu nous as également proposé un autre titre, un morceau de Parawan. Parawan.
Ouais.
Qui s'appelle
Parawan, c'est pas mal.
Vertigo. Thank you. te vois vraiment réagir instantanément au groove de cette
batterie qui rentre. J'adore ce morceau. Parawan, c'est déjà on se connaissait depuis quelques années, mais on s'est vraiment rencontrés là depuis un an parce qu'on a fait quelques morceaux ensemble pour un film en salle actuellement qui s'appelle Pleasure de Nina Thalberg. En l'occurrence, on a fait des beats de rap.
Okay.
Voilà, on feat avec un rappeur américain, Katori Walker, et une rappeuse américaine, Ruby Rose. J'adore ce morceau parce qu'il est en fait dans son film. JB, donc Parawan, vient de sortir un film qui s'appelle Spectre. Mm-hmm. Honnêtement, c'est une tuerie. Très Chris Marker, assez expérimental, beaucoup de références aux films expérimentaux new-yorkais aussi. En même temps, c'est une espèce d'auto-fiction comme ça. Franchement, c'est une balle. J'adore ce film. Il a vraiment fait une œuvre sublime, hyper captivante. Et c'est un mec que j'adore. Et j'adore ce morceau parce qu'il a une espèce de truc de, je sais pas, des masculinités un peu vintage. Une espèce d'assurance comme ça, un peu rétro. Il y a une détermination, mais une détermination sereine, je sais pas comment dire. Fort tranquille, un truc comme ça. Et il y a un truc un peu déviant en même temps avec cette guitare un peu dub par-dessus. Ouais, il est déviant ce morceau. Il avance et en même temps, il y a un truc déviant. J'adore.
Le dernier titre que tu as choisi de nous amener, c'est un morceau d'Inako Omori qui s'appelle Aurelia.
Absolument.
Scratching the insides of her eyelids. Want to block out the light, but it still forces her way in.
Lying awake, wondering why you still creep into my thoughts.
Là aussi, on travaille sur les voix, hyper singulier.
Ouais, ouais, tout à fait. On est sur du chelou.
Ouais.
En fait, cette fille, Nako Mori, je l'avais rencontrée il y a quelques années sur un projet hyper spécifique de Roman Rapak, un mec qui avait un groupe qui s'appelait Breton avant. Elle est anglaise, elle est à Londres. Et voilà, on s'était rencontrés comme ça pour un projet en réalité augmentée, un peu étrange. Et elle est beaucoup sur scène avec Kate Tempest, mm-hmm. qu'on adore quand on la connaît. et voilà, c'est une personne très délicate, très singulière, qui est une pianiste, qui a très 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 grand niveau pianistique, qui est une folle de santé aussi. Et ça, c'est issu de son EP qui est sorti en 2019. Mmh. Et c'est assez deep, travaillé. Ça va pas dans les évidences, ça va dans des coins un peu étranges comme ça. Et c'est bizarrerie vocale que j'adore. Ouais, j'aime beaucoup ce morceau.
Bah écoute, je te remercie beaucoup, Léonie, de nous avoir fait découvrir ces trois titres. Ça va être
avec plaisir.
La fin de notre moment tous ensemble. Avant qu'on se laisse, bien sûr, j'ai envie qu'on mentionne que tu te produiras au Trianon en mars prochain.
Absolument.
Le 25.
Ouais.
Ça va être une date incroyable. Les gens vont adorer y venir.
Mais en plus d'adorer y venir, non mais en vrai, ça va être incroyable. En vrai, il y a une surprise. Il y aura une surprise. C'est pas pour faire du hard teasing.
Ok. Il y a une surprise.
Il y a une surprise qui est démente.
Eh ben, écoute, on te donne rendez-vous en mars prochain. On y sera pour constater. et on manquera pas d'en reparler. Merci beaucoup, Léonie,
merci
d'avoir été
vous.
Avec nous
merci
dans l'émission
beaucoup.
De la Fresh List.
Merci.
La Fresh List, c'est aussi l'émission dans laquelle nous, en tant que programmateurs, on a envie de vous partager la sélection qu'on a faite pour vous sur l'ensemble de ce mois de novembre, Simon,
ouais.
Et Camille, même si Camille, tu n'as pas de micro, tu ne peux pas contribuer avec nous, mais un jour ça viendra.
En tout cas, elle contribue
à la programmation.
La programmation voilà.
À la programmation. Et on avait envie un petit peu voilà, de vous proposer un mix un peu éditorialisé pour vous donner un aperçu de ce qu'on programme ce mois-ci, notamment le titre « Ilia » de Saint-DX.
T'aimer veut dire je fais infraction. Je ne veux jamais, jamais avoir raison.
dans une vie d'onde tort, tu sais.
Un truc très variétoche des années 80, Simon. C'est comme ça que tu nous l'as décrit. Il y a une vibe.
Ouais, il y a une vibe. Il y a totalement une vibe. Et surtout, on le découvre, Saint-Dix, sur ce morceau, au chant en français, quoi. Vraiment.
Alors, c'était pas récent,
Si,
c'est récent, c'est ça que je veux dire. C'était pas fréquent. C'est ça que je veux dire.
C'était pas forcément très fréquent. Et puis, c'est vrai que ces derniers mois, en tout cas, cette dernière année, on l'a surtout. Je pense, en grande partie, le public l'a découvert sur la production. Musical, quoi, et notamment sur certains titres de l'album de Damso. C'est à lui qu'on doit le 911 de l'album Calf. Et c'est vrai que sur ce nouvel EP, il nous propose plein de choses assez différentes, et notamment ce titre où on le découvre en français dans une ambiance un peu 80s, quoi. Voilà.
Le morceau Ilia de Saint-DX, qu'on a décidé d'allier dans notre mix à un titre un peu plus rentre dedans, le titre Mauvais Payeur de La Fève.
Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau player. J'arrive, je fais un dawa, je m'en beurre de la loi, je suis un jeune à la Pokawa.
Mauvais Payeur, qui au rayon du rap émergent, on va dire, en tout cas des nouveaux rappeurs, et pour moi l'un des titres majeurs de cette deuxième partie d'année qui vraiment tourne beaucoup. D'un rappeur qu'on aime beaucoup soutenir, nous La Fève, on avait déjà soutenu le projet Colaf quand il était sorti. Et voilà, on retrouve cet aspect vraiment, ce bounce en fait.
Ce bounce, ouais, c'est vrai que ça fait partie des projets de la rentrée, quoi. Ouais. Il fait une belle impression sur la scène rap nationale, quoi. Il s'inscrit tranquillement sur ces artistes qu'on a envie de suivre, quoi.
Curieux de voir à quel point ça deviendra quelqu'un de majeur dans les années à venir. En tout cas, ce qui est très agréable chez lui, c'est sa façon de continuer d'accompagner cette scène émergente française, de toujours collaborer sur les projets. Et d'être aussi là pour récompenser son public. C'est quelqu'un de très généreux, qu'on aime beaucoup à Radio Campus Paris, qui n'a pas encore la carrière de Band of Horses, qui fait partie de ces groupes, Simon, que tu aimes nous proposer, qui sont déjà installés, mais qui sont toujours agréables à redécouvrir.
Oui, absolument. Bah, c'est un peu comme un bonbon, quoi, ce genre de truc qui te rappelle un peu. Ouais, c'est ces goûts Haribo là, je dis ça parce qu'il y avait Halloween, machin, etc. Tu vois, mais je veux dire, tu manges finalement, ça te rappelle plein de trucs, et c'est vrai que Band of Horses fait partie de ces groupes qui dure dans le temps et dont la recette finalement reste un peu inchangée.
Le titre qu'on a décidé de programmer de Band of Horses, c'est Crutch. On a envie de dire, Simon, c'est du Band of Horses.
Ouais, voilà. c'est du Band of Horses.
Mais il y a quand même un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est cette capacité à rester toujours dans une énergie très actuelle, malgré le temps qui passe, quoi.
Ouais, complètement. Et puis malgré le changement de label, qui ils ont démarré au départ signé chez Sub Pop, le label à qui on doit Nirvana notamment les débuts. Et ouais, il y a toujours ce truc assez frais, en fait, on s'en lasse pas, et en même temps il y a une mélancolie, bon, après dans la voix de Ben Ridwell qui est toujours présente, et qui fait que ouais, c'est quand on écoute un morceau de Band of Horses, en tout cas, on se dit voilà, c'est Fresh List, quoi.
Moins de mélancolie, mais une voix tout aussi marquante, en tout cas c'est une voix que nous on adore dans la Fresh List, qu'on programme assez facilement. C'est la voix de Charlotte Adigéry, qu'on a décidé de vous présenter ce mois-ci avec son morceau Thank You.
Thank you. No, thank you. No, 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 really, thank you. Thank you so much for taking the time to tell me this. This is a real eye-opener. Yeah, you're right, this doesn't look good on me. And maybe I should ditch the blonde wig. That's such a good idea. Tell me, what would you like to see me in then?
Couldn't have done this without you and your opinion. Enlighten me with your vision. I count my blessings.
Yes, I prefer my first EP too. Yeah, maybe I should make it less complex. Two projects, one artist, geez. What the hell was I even thinking?
My inspiration comes from you. Oh, what an honor. I am not worthy of your kindness, noble intentions.
Thank you so much for this opportunity. Yeah, this is really good exposure for us. And exposure shouldn't have a price, right? Because money doesn't rhyme with creativity.
Couldn't have done this without you and your opinion. Enlighten me with your vision. I count my blessings.
I wouldn't have made it this far without you. Yeah, you see my true potential. And you discovered me, right? You're the Columbus to my America.
Toujours chez Charlotte Adjeri, cette approche de la composition par la voix, l'usage des chœurs, c'est quelque chose que je trouve formidable chez elle, qu'on retrouve vraiment sur ce morceau Thank You. Qu'est-ce qui nous a inspiré, Simon, ce titre, quand on l'a découvert? On a retrouvé ce côté solaire.
Ouais, le côté solaire et puis le côté indie. J'ai peut-être une bêtise, mais c'est vraiment le truc...
Il y a sa marque de fabrique.
Ouais. Et puis le côté prod, électronique... Ouais, qui fait que c'est assez intéressant. Enfin, c'est pas un genre de morceau qu'on écoute souvent, quoi. Surtout là, ce passage-là qu'on entend, un truc un peu...
qui est presque club.
Ouais, complètement.
Et
ouais.
Qu'on a hâte de pouvoir découvrir en live bientôt, au Pitchfork, c'est ça?
Au Pitchfork, ouais, d'ailleurs, ce soir, là, tout de suite, maintenant.
Ah oui?
D'ailleurs, là, elle joue, là. Je crois que... Ah, je l'entends de loin, ouais, c'est bien. C'est ça, c'est elle. Ouais.
Quelqu'un qu'on a hâte également de découvrir, c'est Ian Caulfield, qui est un projet qui te tient à cœur, toi, Simon, un petit peu.
Ouais, absolument, ouais. Bah, Ian, c'est un artiste qu'on a programmé la première fois pour un de ses morceaux à l'époque où il chantait encore en anglais. Il venait juste de faire les Inouïs du Printemps de Bourges avec la scène rémoise, etc. Puis il avait sorti un morceau en anglais qui nous avait tous un peu laissé sans voix parce que c'était très beau. Et puis il s'est absenté un peu. Il est revenu en français et il vient de sortir son premier EP. Et ce morceau, Tu me manques, est extrait de ce premier EP.
Quelquefois je me penche à la fenêtre et je pense aux camarades échappés de la bromance. Je repasse mon film favori de l'enfance, passé à s'enivrer de longues nuits blanches. Comment va-t-il, comment va son cœur? J'aimerais le lui demander. Ces vieux carrousels de malheur sont-ils encore bien passés? Quelque part ailleurs à mon anniversaire, je recrache ce qui s'apparente au dessert. M'offrez pas d'almanach, ce n'est pas la peine. Demain on sera déjà l'année prochaine. Puis qu'est-ce que j'y écrirai d'ailleurs? Je vais vous le dire tant qu'on y est. J'y déchire ramasser. Dis-moi la question de la vie. Comment t'y réponds, toi, depuis?
Il paraît, Simon, que tout le monde lui dit qu'il a une voix de fossé qui ressemble un peu à Jean-Louis Aubert.
Ouais, c'est vrai que c'est ce qui revient souvent, mais bon, bah, c'est comme ça, quoi. Je trouve qu'il arrive en tout cas bien à s'approprier sa voix, et sur le chant, là, notamment sur ce refrain, il y a quelque chose d'assez transperçant. Enfin, on sent que c'est profond, quoi, et qui du coup ajoute un vrai truc à la chanson, outre l'orchestration, les textes. Je pense qu'on a là un vrai bel artiste, et je pense qu'il a la capacité d'écrire des grandes chansons, donc c'est cool qu'il soit là, quoi, qu'il soit là dans la fresh list.
En termes d'énergie, moi j'ai envie de le rapprocher un petit peu, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans ce mix, de l'artiste suivante qui s'appelle PR2B et qui est aussi dans une vibe chanson française un peu rétro, on peut le dire.
Ouais, complètement, ouais. Nouvelle chanson française, on va dire.
Je vais devoir reprendre tes mots, Camille, puisque tu n'as pas de micro pour participer avec nous et ce n'est pas de notre volonté. La limite entre ce charme un petit peu désuet et le fait d'être ringard, c'est là un petit peu qu'elle se situe PR2B, avec une élégance et cette façon de reprendre ce rythme valsant. C'est un morceau que tu nous as proposé, Simon.
Ouais, c'est, je trouve, un des plus beaux morceaux de son premier album qui est sorti là il y a 3 semaines. Et enfin un mois maintenant, mais ouais, qui autant dans l'orchestration, dans les arrangements, représente un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle, tu vois, le côté musical vraiment avec ses cuivres, et puis le côté texte aussi, parce qu'elle s'inscrit dans cette scène de chanteuse à texte, et elle joue un peu sur les mots, elle raconte des histoires qui sont toujours imprégné et joué, on l'entend, en fait on la visualise presque quand on écoute le morceau, voilà, y a un jeu théâtral presque, voilà, qui est intéressant.
Une chanson dont tu aimais beaucoup la fin aussi. Ça, c'est...
Ouais.
Quand on l'a écoutée, on va pas se mentir, on n'était pas forcément hyper chaud non plus au moment de devoir choisir de le programmer, et t'as voulu nous emmener à la fin parce qu'il y a ce vie de chienne qui tombe,
ouais, 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 ouais.
En conclusion, c'est presque un spoil, on spoil le morceau finalement.
Chienne de vie, vie de chienne,
mais voilà, un titre qu'on vous encourage à découvrir, un petit peu comme celui d'Indigo de Souza qui s'appelle Hold You, que je vous propose de découvrir maintenant.
I've noticed, and I
C'est une vibe qu'on n'a pas tant que ça, moi, je trouve, dans la Fresh List, notamment un peu par ma faute parfois, parce que moi j'ai tendance à trouver ce côté un peu candide, un peu naïf dans les mélodies. C'est pas vers ça que je viens le plus naturellement. Pour autant, il match parfaitement avec ce qu'on a essayé de faire ce mois-ci.
Ouais, et puis à côté, tout à l'heure, on nous parlait du côté un peu estival. Là, on a le côté un peu estival sur ce refrain, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, ce côté groove, Indigo de Souza. Ben voilà, il vit complètement son truc dans ce morceau. C'est le premier morceau du deuxième album qui est sorti, dont j'ai oublié le nom.
Qui est sorti ce mois-ci.
Qui est sorti, je sais pas s'il est sorti ce mois-ci.
Si, il est sorti, il est sorti fin octobre.
Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc le mois dernier.
Voilà, parfois on mélange un petit peu les infos sur tous ces artistes-là, parce qu'on en écoute beaucoup dans le courant du mois. Néanmoins, il y a un morceau sur lequel on n'a pas du tout hésité, qui est, je trouve, la version parfaite de ce groove estival dont on est en train de parler. C'est le titre « See Me Love » de Dodeline. Jazz curl autour de Dodeline, et finalement un titre très produit, très j'ai pas envie de dire rooftop, mais très summer. T'aimes pas quand je dis rooftop?
Non, je trouve qu'il y a un côté très afterwork.
Bah, un côté très afterwork, c'est rooftop.
Justement, non, j'essaie. Non, mais c'est je mettrais pas quand même ce titre là dans cette catégorie là, mais je vois ce que tu veux dire.
Oui. Dans la vibe un peu que ça... En fait, le problème, c'est qu'en hiver, on met des titres d'été et on passe nos étés à mettre des chansons mélancoliques folk d'hiver. Toujours un petit peu à côté de la plaque à ce niveau-là. Dodeline, Cine Love, un titre retrouvé dans la Fresh List de novembre sur Radio Campus Paris. Un titre qu'on avait envie de partager, accompagné de celui d'une toute jeune rappeuse, Zero Nine Piece, O Nine Piece, je vous avoue que je ne sais même pas exactement comment elle a envie qu'on le prononce, le titre Paradise. Online Peace, le titre Paradise en featuring avec Insom, un titre qu'on avait envie de programmer parce que cette scène rap émergente parfois peut manquer de figures féminines, en tout cas sur la scène SoundCloud, c'est pas toujours les personnages qu'on voit le plus mis en avant, et moi j'ai beaucoup accroché en tout cas à la façon dont elle va poser sur cette prod très, très lumineuse. Et c'est avec ce morceau qu'on va se quitter pour cette émission de novembre. On vous rappelle que la Fresh List est à découvrir sur Spotify, sur le compte de la Fresh List, sur Instagram également. Fresh List sur Instagram. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Camille.
Merci à toi, Erwan.
De réaliser cette émission, de m'avoir accompagné dans cette émission. Un énorme merci à Léonie Pernet. On rappelle qu'il se produira en mars au Trianon.
C'est ça. 25,
le 25 mars au Trianon. Et un merci infini également à Faustine qui nous a accompagnés pour une nouvelle chronique dans cette émission qui sera là probablement à chaque fois. Voilà, on peut le dire, je pense, maintenant. On vous souhaite un bon mois, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous dans un mois, en décembre, pour de nouvelles découvertes. D'ici là, prenez soin de vous. Thank you.